France Inter.
It's morning edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Une grâce présidentielle que l'on attendait sans trop y croire, Boualem Sansal va donc pouvoir sortir de prison 361 jours, transféré en Allemagne très bientôt pour se soigner. Nous sommes ce soir avec le Marocain Tahar Benjelloun, son ami. Nous essaierons aussi évidemment de comprendre ce que deviennent les relations franco-algériennes. L'Algérie affaiblie diplomatiquement, avait-elle un autre choix pour redevenir audible? Ce sera Le Monde à l'endroit, signé Louise Baudet. Le reportage d'Un jour dans le monde ce soir est au Chili, qui ambitionne de créer un mégaport sur ses côtes. Et qui est sur les rangs? Eh bien la Chine, bien sûr.
Cela va en cohérence avec sa politique extérieure des nouvelles routes de la soie. Depuis 5 ans, c'est en Amérique latine que cette politique chinoise est très active.
Un reportage de Naïla de Rouanet que vous découvrirez autour de 18h40. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé l'Argentine et un Javier Milei encore tout auréolé de sa victoire législative qui entend défier les marchés et puis écrire Le Monde. Et Ilana Mor-Youssef qui va clore la séquence autour de Boualem Sansal et la mobilisation autour de cet écrivain qui était sous le feu des critiques également. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
C'est là-bas qu'il faut se battre, pas en France. Il faut être là-bas. Quoi. D'ici, on peut se faire entendre, mais la charge symbolique est beaucoup plus faible et plus importante quand on est sur, même si on n'a pas de voix. Silencieux à Alger est peut-être plus puissant que causeur à Paris.
Bonsoir Tahar Benjelloun.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'écrivain marocain que l'on connaît. Vous vous êtes engagé pour Boualem Sansal. Votre dernier texte, d'ailleurs, il est tout récent. C'était dans Le Point. Cet extrait qu'on vient d'entendre de Boualem Sansal, il date de 2012. C'était dans la matinale de France Inter. Mais on l'a choisi parce qu'il dit tout de cet homme qui sort enfin de prison. Boualem Sansal, c'est ça. C'est cette parole-là, c'est cette puissance-là. Et c'est ça, évidemment, qu'on a voulu faire taire, Tahar Benjelloun.
C'est d'ailleurs un point de vue que je ne partageais pas avec lui. Mm-hmm. Je disais, il n'y a rien à faire avec ce régime. C'est un régime de généraux qui n'ont rien à faire de la culture et des écrivains. Et il vaut mieux parler ailleurs. Bon, ça d'un côté. De l'autre côté, cette histoire d'avoir mis en prison un grand écrivain pendant quasiment un an nous a fait découvrir ce qu'est ce régime. Ce qu'est cette façon de traiter l'intelligence et la grâce que symbolise Boualem Sansal. C'est un écrivain d'une taille universelle, qui est importante, qui est traduit dans plusieurs pays, et en même temps, il devrait être les Algériens, enfin le peuple algérien certainement, il l'est, mais l'Algérie devrait être fière et contente d'avoir un écrivain de sa taille, de cette importance. Or malheureusement, ils l'ont torturé moralement, et ils l'ont mis dans cette prison, ce qui était quelque chose d'insupportable pour lui, d'autant plus que sa maladie, bon, j'espère qu'il va se soigner assez vite, qu'il nous revienne vite en France.
Est-ce que c'est lui, à votre avis, qu'on a voulu faire taire, lui spécifiquement, sur le prétexte de certaines de ses positions, notamment sur le Sahara, ou est-ce qu'au fond, il a aussi, et peut-être surtout, j'en sais rien, fait les frais d'un bras de fer diplomatique, le lien entre la France et l'Algérie, est-ce que c'est pas ça qu'on a puni? Après tout, il était devenu franco-algérien, Boualem Sansal. Donc il y a aussi tout ça, finalement, dans cette condamnation.
D'abord, ce qu'il a répété et dit, ce sont des faits historiques. Mm-hmm. Il n'a rien inventé. Mm-hmm. Pendant la colonisation, la France, quand elle découvrait des minerais intéressants dans une région, soit le sud marocain ou la Tunisie, elle a annexé à l'Algérie française. Et donc, c'est une question d'histoire. Il n'a pas inventé ça, il n'a pas diffamé, il n'a pas dit que les frontières algériennes sont fausses. Mm-hmm. Simplement, il a rappelé ce qui s'est passé il y a 80 ans. Bon, ça d'un côté. De l'autre côté, évidemment, il y a la crise entre la France et l'Algérie, qui va être une crise permanente. Ça ne va pas finir, ça ne va pas s'arrêter. Et je crois que le président Macron, qui au départ est passé avec une bonne intention, il voulait réussir ce que François Hollande ou Sarkozy n'avait pas réussi, c'est-à-dire assainir une situation entre ces deux pays, il a échoué, il ne pouvait pas parce qu'il est de leur intérêt à eux de rester dans une situation de crise. Et on a payé les prix forts de cette crise.
Est-ce que vous avez le sentiment que là, Alger tend une main et que d'une manière ou d'une autre, il faudra la saisir? Ou est-ce qu'il ne faut le voir que comme une manœuvre diplomatique? Il y a beaucoup d'autres raisons derrière et finalement tourner le dos et définitivement même à ce régime totalitaire finalement.
Non, en ce moment, le régime algérien est dans une situation très difficile à la mesure où il a reçu une claque retentissante au Conseil de sécurité il y a 15 jours, dans la mesure où 11 pays ont voté pour la résolution marocaine dans le Sahara occidental, et que maintenant c'est devenu une affaire, plus personne ne peut contester la marocanité de cette région, du Sahara, et ça, évidemment, ils ont perdu 50 ans. Et des centaines de milliards à défendre une cause complètement artificielle, et ils se rendent compte qu'aujourd'hui, ils se sont trompés. Et là, ils sont dans une situation difficile, et je crains que le régime ne soit dans une situation d'état ou de crise, j'en sais rien. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé aux Nations Unies a été pour eux insupportable.
Tahar Benjenoun, avant de vous laisser, je vous remercie beaucoup de ce petit moment que vous avez passé avec nous. J'ai aussi sous les yeux un texte que vous aviez écrit, c'était peu de temps, quelques semaines seulement après l'emprisonnement de Boualem Sansal, et vous lui avez écrit « À très vite, on ira prendre un verre ». Vous allez enfin pouvoir aller le boire, ce verre. Dans quelle impatience êtes-vous de reprendre contact avec lui?
J'espère parce qu'on a fait des voyages ensemble en Italie, en Allemagne, en Pologne. Et à chaque fois, on rigolait beaucoup parce qu'ils ne sont pas des grands buveurs. Mais on aime bien rigoler et tout ça. Et j'espère le voir très, très, très bientôt, surtout en bonne santé.
J'espère aussi. J'espère que vous aurez l'occasion de boire un coup, en effet, avec lui, Tahar Benjenoun. Je vous remercie beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. Je voudrais saluer Akram Belkaïd qui est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain, journaliste au monde diplomatique, monsieur Al-Kaïd. On va évoquer ensemble, évidemment, les relations entre nos deux pays. Je ne sais pas si vous avez entendu à l'instant Tahar Benjenoun qui dit « de toute façon, ce sera permanent ». Est-ce que ce sera permanent ou est-ce qu'il s'est quand même passé quelque chose qui ressemble à une fin de crise, à votre avis, entre nos deux pays ?
Est-ce que ce sera permanent ? C'est évident qu'il y a tellement de relations entre les deux pays, il y a une telle implication entre les sociétés et il y a une telle, je dirais, parfois consanguinité des pouvoirs politiques, même si c'est un sujet à explorer, qu'effectivement, une crise en chasse l'autre. Peut-être que dans un an ou deux, on reparlera d'une nouvelle crise. Il est clair aujourd'hui que cette libération intervient dans un contexte plutôt de reprise de dialogue. Mmh. On a bien vu que depuis le départ de M. Retailleau, les relations se réchauffent lentement, mais peut-être sûrement. Et effectivement, la libération de Boualem Sansal, qui est une bonne nouvelle pour l'intéressé, d'abord et avant tout, va permettre un dialogue, à mon avis, peut-être un peu plus apaisé que ce à quoi on a assisté au cours de ces derniers mois, où les attaques contre... On avait du mal à discerner ce qui relevait de l'attaque contre le régime algérien ou contre l'Algérie tout court ou contre les Algériens tout court, en témoignent de nombreuses déclarations d'hommes politiques français.
Akram Belkaïd, on a bien vu que c'est par l'Allemagne que les choses se sont faites. C'est même vers l'Allemagne que Boualem Sansal va s'envoler. Et surtout, ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait, pour l'instant, en tout cas, pas un mot à la France. J'ai envie de dire pas un mot à la France, ou pour l'instant pas tout de suite. Il faut pour l'instant respecter, on va dire, la lenteur de cette reprise de quelque chose dont on ne sait pas encore si ça s'appelle un dialogue.
Le dialogue existe puisqu'on a déjà des diplomates français qui reprennent le chemin d'Alger. On a visiblement des discussions entre les ministères de l'Intérieur, entre les services de sécurité. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut signaler puisqu'il faut bien savoir que l'été dernier, tout était bloqué, tous les canaux étaient fermés. L'Allemagne, en fait, on est vraiment là aussi dans un cas d'école diplomatique. Mmh. C'est-à-dire que très tôt, il y a un an déjà, beaucoup de gens, notamment à Alger, avaient dit ça ne peut se terminer de manière positive, s'entend, qu'avec l'intervention d'un acteur tiers. À l'époque, on avait beaucoup parlé de l'Italie, on pensait que Mme Meloni allait faire l'intermédiaire. Finalement, ça vient de l'Allemagne et finalement, ça offre à une espèce de sortie de crise, je dirais, positive pour les uns comme pour les autres. Le régime d'Alger peut dire clairement que la libération de Sansal, ça s'est fait parce que l'Allemagne est intervenue et qu'on a de bonnes relations avec l'Allemagne. Côté français, on peut dire que, ma foi, certes, la France n'est pas au premier plan, mais on peut ressortir le couple franco-allemand pour dire que c'est la preuve d'une diplomatie, je dirais, bien concertée et bien organisée. Et voilà, et finalement... ce qu'il faut rappeler tout de même, je pense que c'est assez important, il faut tout de même rappeler que maintenant on commence à avoir quelques fuites, quelques déclarations des uns et des autres qui nous explique que Boualem Sansal a failli être relâché à plusieurs reprises et que ce sont les outrances et les déclarations intempestives de l'ancien ministre de l'Intérieur qui, à chaque fois, ont provoqué une espèce de fermeture de canal, de raidissement des autorités algériennes. Et c'est bien dommage pour l'intéressé.
C'est le fruit des efforts constants de la France et d'une méthode faite de respect, de calme et d'exigence. C'est ce que dit Emmanuel Macron, qui a aussi remercié d'ailleurs le président algérien. Mais dans ce que vous nous dites, on comprend mieux aussi les mots d'Emmanuel Macron qui, en subtexte, disent aussi... c'est ce que disait d'ailleurs Laurent Nunez quand il a pris, le ministère de l'Intérieur avec l'Algérie, le bras de fer, c'est jamais la solution.
Mais de toutes les façons, et c'est en cela que je suis assez... je suis pas très d'accord avec ce qu'a dit M. Benjelloun quand il parle de pression, d'isolement. Il faut bien comprendre que côté algérien, toutes les... il n'avait cure de ces manifestations, de ces déclarations parfois grandiloquentes de soutien qu'on a pu voir ici ou là, qui étaient importantes et nécessaires, ça il ne faut pas le nier. Mais d'un autre côté, on avait une position de fermeté, une espèce de so what, côté algérien, dont il fallait prendre la mesure pour comprendre que la meilleure manière de sortir Boualem Sansal de la prison de Coléa ou de l'hôpital Mustapha à Alger, c'était plutôt de négocier en coulisses, loin des caméras, loin des bruits médiatiques et des surenchères, notamment sur l'accord de 68, etc.
Monsieur Belkaïd, lorsque l'Allemagne parle au président Tebboune, parle de gestes humanitaires, l'Allemagne parle aussi d'une... le message qu'ils envoient, c'est qu'il faut faire un geste humanitaire et aussi il s'agit d'une vision politique à long terme. C'était ça les termes employés. Est-ce que, au fond, ce que l'Allemagne a mis dans la balance et a dit à l'Algérie, c'est vous devez renouer de toute façon avec la France, vous n'avez pas le choix, mais aussi peut-être redevenir fréquentable, y compris à nos yeux, à nous. Est-ce qu'il peut y avoir eu ça dans le discours ?
C'est très possible. L'Europe, puisque pas simplement la France, l'Europe est un acteur, vous savez, on ne remet pas en cause sa géographie, donc l'Europe, quoi qu'on veut, quoi qu'on dise, est un partenaire de poids avec l'Algérie. Néanmoins, je relativise encore une fois cette notion d'isolement, parce que ça n'a pas empêché les Algériens d'avoir des contacts avec d'autres pays du Sud, ou même des pays occidentaux, je pense notamment aux États-Unis, qui sont aujourd'hui un partenaire de plus en plus influent en Algérie. Il y a presque une romance qui s'installe entre l'Algérie et les États-Unis. Et ça, c'est aussi ce qui commande un peu de real politique, comme on dit. J'aimerais juste dire aussi quelque chose de très important, parce que je trouve très bien que tout le monde se félicite de la libération de Boualem Sansal.
J'allais m'emmener vers Christophe Glaize, j'allais vous y emmener, allez-y.
Mais voilà, je voudrais parler de mon confrère Christophe Glaize, qui est toujours détenu et dont le procès en appel va avoir lieu dans quelques jours, en décembre. Mais je voudrais aussi parler, parce que je fais écho à l'extrait que vous avez passé. Boualem Sansal revendiquait une position de parler en Algérie, certes, mais il est plus souvent en France. Moi, je voudrais parler de quelques 200, voire plus, détenus d'opinion qui sont encore en prison en Algérie. Il y a un jeune homme qu'on appelle le poète du Hirak, qui s'appelle Mohamed Tajadit, qui a effectué 6 séjours de prison consécutifs depuis 2019 et qui, hier, a été condamné à une peine de 5 années de prison pour ses écrits, pour apologie du terrorisme. Et l'affaire Sansal a démontré d'une certaine manière que, ma foi, on peut se mobiliser pour un écrivain connu, mais avec des arrière-pensées politiques, mais les détenus politiques algériens, les détenus d'opinion qui se sont engagés dans l'Irak dont on a tant parlé, nous en avons parlé sur,
et ici, sur compris, votre chaîne. Absolument.
Oui, voilà. On a tendance un peu à les oublier, et c'est ça qui est, à mon sens, assez dommage
dans
le discours actuel.
Vous faites bien de le rappeler, Akram Belkaïd, merci beaucoup. On rappelle aussi, effectivement, Christophe Glaize, arrêté en mai 2024, condamné à 7 ans de prison. Le procès en appel, c'est le 3 décembre. On ne le perd pas de vue, on va y revenir évidemment à l'Algérie. Je vous remercie beaucoup Akram Belkaïd. La suite de ce chapitre, justement, c'est avec vous et c'est dans Le Monde à l'endroit, Louise Baudet.
On en parlait à l'instant, la libération de Boualem Sansal ne serait-elle aussi pas affaire de contexte international et d'affaiblissement diplomatique relatif d'Alger?
Le temps de laisser passer Andrea Laszlo de Simone. À tout de suite.
Fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. colpa della bocca, stupida come me, e del tuo corpo che la tocca. Dell'istinto agile come me, che corre sempre dritto al punto, è colpa dell'amore ruvido come me.
L'autre des Simone Quando sur France Inter, c'est dans la playlist. On revient sur la libération de Boualem Sansal. Je vous signale qu'il est en route, on vient de l'apprendre, en route désormais donc pour l'Allemagne pour recevoir des soins. C'est ce qu'a annoncé lui-même le président allemand. Louise Baudet, Le Monde à l'endroit.
Fabienne Synthèse. Le 18
juin. Et Louise, vous nous expliquez pourquoi l'Algérie est de plus en plus isolée et n'avait tout simplement pas le choix.
Plus assez d'amis ni d'influence pour s'offrir une crise permanente avec la France. La libération de Boualem Sansal est aussi affaire de contexte international et d'affaiblissement diplomatique d'Alger. Des revers successifs qui ont fini par peser plus lourd dans la balance que la rente mémorielle tirée des feux mal éteints du contentieux colonial. Dernier de ces revers, à l'ONU, le 31 octobre dernier, le Conseil de sécurité des Nations Unies apporte son soutien au plan marocain d'autonomie du Sahara occidental, territoire revendiqué par le Maroc depuis son indépendance face au mouvement armé du Front Polisario soutenu par Alger. La rivalité entre les deux puissances régionales, eh bien, elle empoisonne la géopolitique du Maghreb depuis un demi-siècle et elle tourne à l'avantage du Maroc avec le soutien actif des États-Unis mais aussi de la France qui a reconnu la marocanité du Sahara occidental à l'été 2024. C'est ce dossier qui a déclenché la fureur d'Alger.
Et Alger, pas vraiment soutenu par la Russie, pourtant son allié historique ?
Oui, Moscou s'est abstenu, tout comme Pékin d'ailleurs, lors du vote au Conseil de sécurité de l'ONU. Et la prise de distance n'est pas seulement conjoncturelle. La Russie et l'Algérie jouent des jeux radicalement différents. Au Sahel, Moscou veut faire de la région sa nouvelle base de projection africaine et soutient les juntes militaires au pouvoir au Mali, au Burkina et au Niger, via l'action des paramilitaires d'Africa Corps, les successeurs du groupe Wagner. Or, ces juntes sont hostiles à l'Algérie. Elles fragilisent ses intérêts et la marginalisent dans une région longtemps perçue comme son arrière-cour stratégique. Alors, on est loin de la rupture avec Moscou, qui reste le principal fournisseur d'armes d'Alger. Une livraison de chasseurs furtifs Sukhoi de dernière génération est d'ailleurs imminente. Mais l'atmosphère s'est singulièrement rafraîchie et Alger apparaît d'autant plus isolé.
L'Algérie qui a aussi échoué à intégrer un club très prisé, celui des BRICS.
Oui, cette organisation des pays dits du Sud global, créée en 2009 pour contrer l'influence du G7, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, pays rejoint il y a 2 ans par 5 autres pays, dont l'Iran, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis. Ça fait 10 en tout et c'est sans l'Algérie qui a pourtant vigoureusement toqué à la porte. Son dossier a été retiré à la dernière minute au sommet de Johannesburg à cause d'une économie jugée pas assez diversifiée, trop dépendante des hydrocarbures, camouflet très mal vécu par Alger et marque là aussi de son repli diplomatique.
Le leadership algérien, Louise, est peut-être atteint, mais ce pays reste un acteur incontournable au Maghreb et bien sûr au-delà.
Oui, il n'est peut-être plus le tuteur ou l'arbitre qu'il a été, mais il reste un puissant informateur. Le renseignement algérien est un partenaire essentiel pour Paris et réciproquement. C'est un paradoxe au vu de la tension de ces derniers mois, mais les services de sécurité des deux pays sont condamnés à coopérer pour se prémunir contre la menace terroriste. La recrudescence de cette menace au Mali, où les djihadistes du Jnim encerclent Bamako, est, selon les spécialistes de la région, un autre facteur de la détente relative entre Paris et Alger. Détente qui a permis la libération de l'écrivain franco-algérien.
Merci beaucoup, Louise Baudet. À demain, le reportage. Le reportage est au Chili ce soir, qui ambitionne de se doter d'un mégaport. Il veut conserver sa place de porte d'entrée sur l'Amérique du Sud, être capable d'absorber aussi une augmentation du commerce international dans les décennies à venir, rester compétitif devant par exemple le Pérou, qui s'est déjà offert récemment un très gros port sur ses côtes pacifiques. Au Chili, le port de la ville côtière s'appelle donc San Antonio, ce port-là sera agrandi. Mais qui va se charger de ce très gros chantier? Pour l'instant, 7 entreprises ont répondu à l'appel d'offres, parmi lesquelles 2 chinois, car Pékin, depuis plusieurs années, accroît sa présence en Amérique latine pour acter qu'elle est la première puissance commerciale mondiale. Le reste, c'est Naïla de Rouanet qui raconte.
Des containers empilés les uns sur les autres, de gigantesques grues et des camions dans tous les sens. Le port de San Antonio est déjà le plus grand du Chili et le 9e plus important en Amérique latine. L'année dernière, 24 millions de tonnes de chargements y ont transité.
L'agrandissement du port permettra d'additionner 60 millions de tonnes supplémentaires par an. C'est plus du triple.
Eduardo Abedrapo, le président du directoire de l'entreprise portuaire de San Antonio.
Cette extension du port est pensée pour la seconde moitié du siècle. Par conséquent, il faut penser aux navires de plus de 400 mètres. Certains opèrent déjà. Mais surtout, il faut penser à ceux qui seront encore plus grands dans le futur.
Il faut alors un port plus grand pour des bateaux plus gros. Le projet d'agrandissement comprend donc la construction d'une digue de 4 km, des opérations de dragage du fond de la mer et 2 postes d'amarrage de près de 2 km chacun. Une œuvre titanesque pour un montant total de 4 milliards de dollars. Selon le ministre chilien des Transports, ce projet portuaire sera même le plus grand du continent, tout en ajoutant qu'il ne s'agit pas pour autant d'une compétition.
Le fait qu'il y ait d'autres ports de même envergure à d'autres endroits de la côte Pacifique Sud permet aux compagnies maritimes qui transitent dans cette zone de passer par plusieurs endroits. Par exemple, le port récemment inauguré par nos voisins péruviens, on le voit plutôt comme un complément attractif pour notre projet d'agrandissement ici.
Pour Alberto Rojas, au contraire, il s'agit bien d'une compétition entre le Chili et le Pérou, deux portes d'entrée sur le continent sud-américain. Il est le directeur de l'Observatoire des affaires internationales de l'université Finisterrae à Santiago.
Que ce soit le Pérou ou le Chili, les deux pays ont bien conscience de l'importance de gérer et administrer des ports dans le Pacifique. Pas seulement en ce qui concerne les importations et les exportations, qui sont des liens et des ponts vers l'Asie. Dans la mesure où le Pacifique Sud regarde vers le continent asiatique, évidemment que cela met le Chili et le Pérou dans une position très importante et stratégique.
L'Amérique latine qui regarde vers l'Asie et, inversement, la Chine notamment, qui depuis plusieurs années s'implante sur le continent sud-américain. Pékin a financé le port de Chancay au Pérou et tente désormais de remporter l'appel d'offres chilien pour le port de San Antonio. Une présence chinoise stratégique, là aussi, explique Luis Lira, également chercheur à l'université Finisterrae.
La Chine a clairement établi son catalogue de matières premières en Amérique du Sud. Dans le cas chilien, il s'agit du cuivre et bientôt du lithium, fondamental pour la construction de batteries, de téléphones et d'ordinateurs.
En finançant de grosses infrastructures et en mettant la main sur les ports sud-américains, la Chine cherche donc un accès plus direct aux matières premières du 21e siècle. Mais son installation sur le continent répond aussi à un autre objectif. Andrés Borges est professeur à l'Institut d'études internationales de l'Université du Chili.
Cela va en cohérence avec sa politique extérieure des nouvelles routes de la soie. Elle a débuté en Asie, puis elle s'est étendue vers l'Europe, l'Afrique, et depuis 5 ans, c'est en Amérique latine que cette politique chinoise est très active.
Deux entreprises chinoises ont déjà manifesté leurs intérêts concernant l'appel d'offres pour l'agrandissement du port de San Antonio, qui devrait se conclure en début d'année prochaine. Mais avant que les travaux ne commencent, il restera encore à attendre le feu vert du service chilien d'évaluation des impacts sur l'environnement.
Neila Derouané pour le reportage. Merci beaucoup. La suite d'Un jour dans le monde, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Guillaume Audin.
Sous les radars et les cheveux au vent, ceux des femmes en Iran, en tout cas celles qui roulent à moto.
Ilana Morius a fait écrire Le Monde, qui nous permet de reparler de Boualem Sansal.
Oui, en Algérie, avec lui. Quelle surprise!
Allez, ne bougez pas, on revient tout de suite en passant par New York avec PJ Harvey. Good Fortune sur France Inter. Fortune. Vous êtes dans Un jour dans le monde et on va chercher l'actualité internationale cachée sous les radars avec Guillaume Audin.
Ja, vielen Dank, Frau Professor Schnitzer.
Ça c'est Friedrich Merz, Guillaume, il reçoit tout sourire, on peut le dire. Le rapport annuel est très attendu du Conseil des experts économiques.
Le chancelier allemand souffle quelque peu, l'économie de son pays repart de l'avant. Après trois années de récession, de stagnation, le PIB devrait augmenter de 0,9% en 2026. C'est timide, mais c'est une bonne nouvelle, à la fois outre-Rhin et pour l'Union européenne. Je vous passe les recommandations très techniques de ces sages qui observent à la loupe les dépenses, les recettes, les orientations budgétaires. Un enseignement toutefois, le gouvernement allemand a adopté cette année un paquet financier exceptionnel, a même amendé sa constitution pour pouvoir s'endetter et investir un peu partout, mais massivement dans la défense. 108 milliards cette année, deux fois le budget que Paris consacre à ses armées. L'analyse allemande est la suivante. La guerre en Ukraine représente une opportunité historique pour l'Europe, opportunité tout à la fois économique en termes de relance intérieure, mais aussi politique. En clair, dépenser sans compter pour imposer à Moscou sa volonté et défaire le continent de sa dépendance militaire à Washington. Suivez le guide, il part de Berlin.
Javier Milei, dont on narre les exploits à la télé argentine, enfin sur certaines chaînes. En tout cas, le président est de retour des États-Unis.
Re-retour. On avait parlé ici ensemble, je vais vous dire pourquoi re-retour. Javier Milei, il avait été quémandé un chèque de 20 milliards de dollars chez son copain Trump. Il l'avait obtenu, mais sous condition, remporter les élections, c'est chose faite, on a suivi tout ça, merci l'ingérence populiste. Entre-temps, il a revoyager aux États-Unis, New York et Miami, histoire de remettre du carburant dans sa tronçonneuse. Milei a désormais les coudées franches, il prépare un plan choc pour l'Argentine, retraite à 70 ans, journée de travail de 12 heures, les salaires indexés sur la productivité et enfin super TVA afin de redistribuer une partie des recettes aux puissants gouverneurs de province et évidemment afin de s'acheter leur clémence. Le seul nuage à ce stade, il est de taille, c'est la stabilité du peso artificiellement gonflé jusqu'alors pour maintenir l'inflation. Javier Milei refuse de laisser flotter sa monnaie. Le risque, c'est l'effondrement total, brutal et la banqueroute si Buenos Aires est incapable de rembourser sa dette. Sourire aux lèvres, chemise légère, cette iranienne qu'on entend là nous explique comment dans son pays, femme, vie, liberté, est en train de tout changer aux mobilités. Alors c'est pas encore tout à fait Easy Rider à Téhéran, mais franchement à voir les images qui circulent et notamment sur les réseaux sociaux, on se dit quand même qu'un vent de liberté, aussi infime soit-il, on va parler d'une légère brise, décoiffe la chevelure des femmes en Iran parce qu'il est toujours question de voile là-bas d'une façon ou d'une autre. Si les filles n'ont toujours pas officiellement le droit de passer leur permis de roue, c'est parce que, selon les mollahs ultra-conservateurs, elles ne peuvent pas porter correctement leur foulard en conduisant. À lire la presse, pourtant, on découvre qu'à Téhéran, selon le journal Etemad, qui rapporte l'information, eh bien que 500 motocyclistes iraniennes viennent de fonder le tout premier club de moto féminin du pays. Des femmes âgées de 25 à 45 ans, de toutes classes sociales et catégories professionnelles, déterminées, dit le journaliste, à ne plus jamais lâcher le guidon de leur moto, de leur scooter, de leur châssis. Impensable, il y a encore une dizaine d'années, ajoute le quotidien, qui salue un changement radical en Iran.
Guillaume Moda, merci beaucoup. Le mercredi, Ilan Amor Youssef lit et relit les auteurs qui regardent le monde. Ben, ça vaut le coup de relire Bolem Sansal, du coup.
France Inter. Un jour dans le monde.
Ilana, l'écrivain franco-algérien, donc emprisonné depuis presque un an en Algérie et au cœur d'une grave crise diplomatique, est en route désormais vers l'Allemagne pour soins médicaux. Pour ses nombreux soutiens dans le monde littéraire, c'est un immense soulagement et c'est la fin d'une longue attente.
Est-ce que vous vous souvenez, Fabienne, de ce que vous faisiez le 18 novembre 2024?
Alors,
au soir?
J'avoue que non.
Eh bien, moi, je m'en souviens parfaitement. J'étais à la rédaction. 15 jours avant, Kamel Daoud avait obtenu le prix Goncourt et en Algérie, une jeune femme l'accusait de lui avoir volé son histoire. Ce soir-là, j'avais essayé de joindre à plusieurs reprises Boualem Sansal. Malgré des SMS et des messages vocaux, il ne répondait pas. Vers 22h, j'ai laissé tomber et c'est le lendemain que j'ai compris. Boualem Sansal avait été arrêté 3 jours plus tôt à l'aéroport d'Alger.
Et donc, ça a été le début d'une grande mobilisation parmi les écrivains.
Et le point d'orgue de cette mobilisation a été la soirée organisée par les éditions Gallimard avec le soutien de Jack Lang à l'Institut du Monde Arabe. C'était en février dernier. Ceux qui n'avaient pas pu être là avaient envoyé des messages. Roberto Saviano, Jonathan Coe, Patrick Modiano, impossible de les citer tous. Parmi les présents, la grande reporter Florence Obna. Ce soir-là, elle avait évoqué ses premières rencontres avec Boualem Sansal quand elle était en reportage en Algérie. Il n'était pas encore écrivain, mais on lui avait conseillé d'aller voir ce drôle de type qui n'avait pas la langue dans sa poche.
C'était juste avant qu'il devienne la bête noire du régime algérien. Et à chaque fois, je lui demandais, mais Boualem, vous n'avez pas peur? Il m'avait fait cette réponse que j'ai gardée. Il m'a dit, la peur, c'est une addiction et il ne faut pas commencer.
Et alors, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, Ilana, Boualem Sansal n'a pas toujours été écrivain.
Non, pendant longtemps, il a occupé un poste de haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie et il avait 50 ans bien sonné quand il a envoyé le manuscrit de son premier roman aux éditions Gallimard. J'ai repris tout à l'heure le volume de ses œuvres rassemblées dans la collection Quarto. Boualem Sansal aurait pu rester un haut fonctionnaire consciencieux et austère, écrit son éditeur Jean-Marie Laclaftine. Cependant, au fil des ans, il a vu son pays s'enfoncer dans la gabegie et la corruption. L'événement décisif a été l'assassinat en 1992 du président Mohamed Boudiaf, tout juste revenu d'exil. « J'ai cru en cet homme et sa mort a été pour moi un choc terrible », déclare Boualem Sansal dans une interview à la presse algérienne. « Je me suis mis à écrire comme on enfile une tenue de combat ». C'est ça la phrase importante. « Je me suis mis à écrire comme on enfile une tenue de combat ». Et dès son premier roman, Le Serment des Barbares, Boualem Sansal s'impose comme un écrivain qui va compter. Dès ce premier livre, on trouve les thèmes qui vont irriguer son œuvre à venir. Je vous résume rapidement l'intrigue. Un inspecteur de police est chargé d'enquêter sur 2 crimes parallèles, ce qui l'amène à dévoiler la corruption, la violence, le chaos qui gangrène la société algérienne de l'époque. Je vous propose d'écouter la dernière page de ce roman, tout son salle est déjà là.
Assis derrière son bureau, le docteur à midi avait les yeux rouges et le geste fatigué. Comme un gamin brimé, il reniflait bruyamment en s'arrachant le nez du revers du coude. Dans le journal du matin, alors que sa vue s'opacifiait dans la douleur, il lisait, relisait un article qui lui déchirait le cœur. Avant-hier, jeudi, à 14h, sur la terrasse des cafés de la fac, au centre d'Alger, a été abattu un officier de police. Le tueur lui a tiré une rafale dans la tête et s'est éclipsé dans la foule, nombreuse, à 7h. Son signalement a été recueilli par la police, qui affirme avoir pris toutes les dispositions pour le retrouver et le mettre hors d'état de nuire. Celui que Tourouiba appelait familièrement Silarbi a été inhumé hier, vendredi saint, après la prière. Le docteur Hamidi s'effondra sur son journal. Son vieil ami le policier avait raison. L'histoire n'est pas l'histoire quand les criminels fabriquent son encre et se passent la plume. Elle est la chronique de leurs alibis. Et ceux qui la lisent sans se brûler le cœur sont de faux témoins.
Et grand merci à Fabrice Drouel, évidemment, pour la lecture, ça donne une autre allure. Il n'a jamais dévié de cette ligne, Ilena Mourioussef, même s'il se désespérait que ses avertissements ne soient pas écoutés.
C'est vrai, ses interviews, surtout les dernières, ressemblaient de plus en plus à des prophéties sombres. Et les prophètes ne sont pas très aimés, c'est connu. On l'a accusé d'être d'extrême droite, de ne pas aimer son pays. Alors je voudrais vous faire écouter cet extrait d'une interview accordée à Laura Adler en février 2015. On y perçoit sa grande lucidité, mais aussi son amour profond pour l'Algérie.
L'Algérie, Alger, les Algériens, c'est les extrêmes. Le jour où ils apprendront à vivre entre les extrêmes, je crois qu'en ce moment commencera la véritable histoire de l'Algérie, c'est-à-dire un pays, c'est par définition quelque chose de stabilisé. Après l'indépendance, il y a eu un régime qui a divisé les Algériens, l'islamisme est arrivé à diviser les Algériens. Et aujourd'hui, la ségrégation se fait par l'argent, par l'arrivisme, la corruption. Donc il y a une tension permanente entre... Vous mettez deux Algériens dans une même pièce, vous revenez 10 minutes après, il y a des étincelles. Et en même temps, ils apprécient aussi, malgré cette tension, malgré ces différences, ils aiment bien vivre ensemble. Quoi. Voilà. C'est étonnant, hein.
Non. J'adore c'est étonnant. Non, alors vous entendez la tendresse amusée dans sa voix. Un tel homme ne peut pas être traître à son pays. Et je pense même le contraire. Boualem Sansal, c'est un Algérien majuscule.
Merci beaucoup, Ilena Mourioussef.